Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Ce drame dans la Manche, au moins 27 candidats à l'exil sont morts au large de Calais en tentant, à bord d'une embarcation de fortune, de se rendre au Royaume-Uni. Suite à cette tragédie, nous écouterons Marie-Christine Vergia, ancienne députée européenne, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. La journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, la députée communiste de Seine-Saint-Denis, Marie-Georges Buffet, plaide pour une meilleure application de la législation en France. Elle sera l'une de nos invitées. Plus de 30 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal en 1991 à Mougins, la justice examine ce jeudi à huis clos une nouvelle requête en révision du procès d'Omar Radad. Le rebond des cas de Covid-19 en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, va dévoiler dans quelques minutes le nouveau dispositif sanitaire pour tenter d'endiguer la cinquième vague qui frappe le pays. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, des mots du chef de l'État au lendemain du drame. Dans la Manche, au moins 27 candidats à l'exil sont morts au large de Calais en tentant, à bord d'une embarcation de fortune, de rejoindre la Grande-Bretagne. Emmanuel Macron demande le renforcement immédiat des moyens de l'agence Frontex aux frontières extérieures de l'Union européenne, selon un communiqué de l'Élysée. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier à Calais suite à ce drame. Gérald Darmanin, pour qui les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, le ministre de l'Intérieur.
Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Asie, et qui ensuite utilisent ces personnes, les font venir en Belgique, aux Pays-Bas, en France surtout, pour traverser la Manche et pour aller en Grande-Bretagne. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier. Et 4 passeurs aujourd'hui, dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune, ont été arrêtés, dont 2 sont aujourd'hui en décision de déferment devant le tribunal. Et je voudrais remercier les services de police pour leur réactivité.
Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et depuis hier, ce sont au moins 5 passeurs qui ont été arrêtés suite à ce drame dans la Manche. Entretien avec Marie-Christine Vergia, ancienne députée européenne, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
On se dit que ce genre de drame devrait pouvoir être évité parce que la Manche est en train de devenir un cimetière comme la Méditerranée l'est déjà depuis des années. Ça ne sert à rien de mettre en cause les passeurs, les associations, c'est les États, les gouvernements qui sont responsables de ces tragédies. Et je crois qu'il faut le dire. Il faut qu'on entende enfin les associations qui demandent des politiques d'accueil. Que si ces gens étaient bien accueillis, enfin mieux accueillis, ils n'auraient pas comme seule idée de prendre un bateau et de risquer leur vie pour traverser la Manche.
Mais vous ne niez pas la responsabilité des passeurs aujourd'hui.
Plus on ferme les frontières, plus les routes sont dangereuses et plus on fait le jeu des passeurs. Donc les responsables, ce n'est pas les passeurs, c'est ceux qui permettent d'organiser ce trafic. Et sans ces routes fermées, les gens, ils prendraient des routes légales. Or, il n'y a pas de voie légale. Il n'y a pas de voie légale. Ils ne peuvent pas avoir ne serait-ce qu'un visa humanitaire. Il suffit d'écouter les témoignages, leurs témoignages. Personne ne peut imaginer qu'ils font le choix de risquer leur vie. Ils risquent leur vie parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir légalement, parce qu'on ne leur donne pas de visa. Alors oui, les passeurs, mais ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. On peut toujours lutter contre les passeurs. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème en amont, on continuera de faire le jeu des passeurs. Ça fait 20 ans que ces politiques sont en œuvre. Ça fait 20 ans qu'on voit les passages se déplacer. Et ça fait 20 ans qu'il y a des morts, de plus en plus de morts. Alors c'est à la frontière italienne, c'est dans le Briançonnais, c'est à Saint-Jean-de-Luz maintenant, c'est entre le Maroc et l'Espagne, c'est tout au long de la Méditerranée, c'est entre la Pologne et la Biélorussie. On nous explique qu'il y a une crise migratoire parce qu'il y a 2500 personnes qui sont coincées entre les deux frontières. Moi, quand j'ai vu le petit cercueil blanc de ce bébé de 27 semaines qui a été enterré là-bas, j'ai repensé au petit Alan Kurdi. Petit Alan Kurdi avait ému le monde entier. Combien d'enfants sont morts depuis Alan Kurdi sur ces routes dangereuses. Des centaines d'enfants sont morts.
Comment accueillez-vous cette demande du chef de l'État qui demande le renforcement immédiat des moyens de l'agence Frontex aux frontières extérieures de l'Union européenne?
On peut toujours renforcer les moyens répressifs, que ce soit Frontex ou que ce soit des gardes-frontières. L'agence Frontex, c'est une agence de coopération. Les frontières, elles ne sont pas gardées par l'agence Frontex. Les frontières, elles sont gardées par des gardes-frontières nationaux. Moi qui ai travaillé au niveau européen, ça m'agace de voir toujours mettre Frontex en avant. Il va y avoir à terme 10 000 personnes à Frontex. C'est pas Frontex qui garde les frontières, ce sont les gardes-frontières nationaux.
Vous estimez qu'il faut changer aujourd'hui le regard porté sur ces personnes, sur ces candidats à l'exil?
Exactement. Moi, je dis qu'il faut construire une nouvelle narration des politiques migratoires. Il faut regarder les réalités en face, sortir des fantasmes. Parce que dans le monde aujourd'hui, il y a 280 migrants internationaux. Sur ces 280 millions de migrants internationaux, il y a 70 millions d'Européens sur un continent de 700 millions. Il y a 37 millions d'Africains sur un continent d'un milliard d'eux. Faites les proportions dans les deux cas et voyez qui migre le plus. C'est hallucinant qu'on s'en prenne à quelques milliers de personnes alors que le monde est de plus en plus mobile. On peut aller, venir. Nous, on peut aller, venir quand on a la chance d'être né dans les bons pays, du bon côté de la Méditerranée. Alors qu'il y a des pays dans lesquels on n'a pas le droit de bouger. J'ai oublié de dire d'ailleurs que ces migrations, quel que soit le continent, elles se font d'abord à l'intérieur des continents. C'est à peu près 30% des Africains qui bougent hors du continent et ils viennent pas tous en Europe. Cette espèce de fantasme de croire qu'on est le centre du monde et que tous les gens rêvent de venir vivre en Europe, mais c'est de la folie douce, quoi. On alimente les peurs, les fantasmes, au lieu de dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui.
Et en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, vous pensez également aux femmes exilées?
Bien sûr. On oublie d'ailleurs qu'il y a de plus en plus de femmes parmi les migrants internationaux et parmi les exilés. Et c'est les femmes plus diplômées que les hommes, d'ailleurs, en moyenne, comme les migrants sont des gens en moyenne très diplômés, beaucoup plus diplômés que la moyenne de nos pays. Alors bien sûr, oui, parce que qu'est-ce que c'est le parcours d'une femme qui prend ses voies dangereuses? Eh ben, c'est violence, viol à répétition. Une fois sur deux, elles se mettent sous la coupe d'un homme pour être protégées des autres. Je lisais que dans le camp de Lesbos, les femmes payaient des hommes pour se retrouver enceintes, pour sortir de ces camps fermés aux portes de l'Union européenne. Alors oui, je pense aux femmes, bien sûr je pense aux femmes, parce qu'elles sont encore plus victimes que les autres. Elles sont vulnérables, comme les enfants.
Marie-Christine Vergia, ancienne députée européenne, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Un attentat en Somalie, 5 personnes ont été tuées ce matin, plus d'une dizaine blessées lors de l'explosion d'une voiture piégée. C'est arrivé près d'une école de la capitale Mogadiscio. Le premier ministre libanais, Najib Mikati, est arrivé ce matin au palais apostolique au Vatican pour une audience privée avec le pape François. Une rencontre au moment où le Liban traverse une crise socio-économique inédite, doublée d'une impasse politique. Le pape a multiplié ces derniers mois les messages de soutien au Liban. Il avait déjà reçu en avril l'ancien premier ministre Saad Hariri, auquel il avait exprimé le souhait de se rendre au Liban dès que les conditions seront réunies. Plus de 30 ans après le meurtre de Ghislaine Maréchal en 1991 à Mougins, la justice examine aujourd'hui à huis clos une nouvelle requête en révision du procès d'Omar Haddad, le jardinier marocain condamné pour ce crime, puis partiellement gracié. Omar Haddad, aujourd'hui âgé de 59 ans, sera présent au palais de justice de Paris mais ne fera pas de déclaration. Ce premier examen n'est qu'une étape vers une éventuelle révision du procès. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits humains les plus répandues, les plus persistantes et les plus dévastatrices dans le monde. C'est ce qu'indique l'Organisation des Nations Unies. En France, la députée communiste de Seine-Saint-Denis, Marie-Georges Buffet, plaide pour une meilleure application de la législation. Elle reviendra, vous l'entendrez, également sur le sort des femmes afghanes. Entretien avec Marie-Georges Buffet.
Il y a une journée internationale contre les violences faites aux femmes, sauf que la journée passée, les femmes sont toujours victimes de cette violence dans le cadre familial, dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Il s'agit, au-delà de cette journée internationale, de faire le point sur l'application des lois qui ont été prises, par exemple, contre les violences faites aux femmes dans le milieu familial, où on voit bien qu'il n'y a pas suffisamment au niveau de la police et de la justice, de formation sur ces questions, de suivi des personnes qui portent d'accueil et de suivi des personnes qui portent plainte pour violence, de suivi des auteurs des violences, puisque très souvent les féminicides sont accomplis par des hommes qui avaient déjà été condamnés pour violence contre leur conjointe et qui récidivent en allant jusqu'au bout. Et puis il y a cette domination patriarcale qui fait que, y compris dans la sphère professionnelle, les femmes aujourd'hui en France, sixième puissance économique mondiale, connaissent encore des écarts de salaire qui globalement se montent à 16% d'écart entre le salaire d'une femme et d'un homme, et qui, pour le même poste, la même responsabilité, les mêmes diplômes, atteint encore 10%. Au niveau de l'écart des salaires, avec aussi le plafond de verre sur la prise de responsabilité. C'est vrai également en politique, où la loi sur la parité a amélioré beaucoup les choses, dans la présence des femmes dans les conseils municipaux, départementaux, régionaux, mais on s'aperçoit qu'après, au niveau de la composition des bureaux municipaux, au niveau des tâches qu'on leur confie, on les confine encore dans un rôle de mère, on leur confie la petite enfance et des choses comme ça, alors que massivement les questions d'urbanisme, de financement, etc., sont confiées aux hommes. Et puis, le nombre de femmes mères n'est pas paritaire encore aujourd'hui par rapport aux responsabilités occupées par les hommes. Donc, on voit bien que la loi est utile, la loi acte des combats féministes pour les droits des femmes, mais que la loi ne s'applique pas suffisamment dans la vie quotidienne pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, on a, je l'ai dit hier, mais on a un problème. Il faut que l'Assemblée joue son rôle d'évaluation de la mise en œuvre des lois qui ont été votées. Il y a eu plusieurs lois contre les violences faites aux femmes. Il y a eu la loi contre le système prostitutionnel, la loi abolitionniste, etc., qui ne sont pas réellement suivies d'une mise en œuvre suffisante pour préserver les femmes de toutes ces violences.
Il ne s'agit pas d'étoffer la législation, mais d'appliquer la loi, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui.
Exactement, exactement. La loi est là contre la prostitution, la loi est là contre les violences faites aux femmes, des lois ont été votées pour l'égalité salariale, etc., etc. Sauf que les acteurs dans la société ne mettent pas suffisamment en œuvre ces lois. On a encore des problèmes d'accueil dans les commissariats pour les femmes victimes de violences. On a encore des mises en doute de la capacité d'une femme d'être disponible, d'être compétente dans son travail, etc., etc. Donc, je pense que l'important aujourd'hui n'est pas de légiférer encore, mais de faire en sorte que la loi s'applique.
C'est une journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous pensez en ce jour aux femmes afghanes en proie au régime des talibans ?
Tout à fait. Aujourd'hui, les talibans sont à l'offensive contre les femmes. À la fois, ils veulent les soumettre, mais ils veulent aussi les rendre invisibles. On sait que déjà leur accès à l'éducation est limité, leur accès au sport est interdit. On apprenait encore plus récemment que les films, les séries où apparaissaient des femmes ne passeraient plus sur les écrans de télévision en Afghanistan. Des femmes connaissent le mariage forcé, des familles sont amenées à vendre des petites filles, leurs petites filles, etc. Donc nous sommes dans un régime inhumain envers les femmes. Et j'ai interrogé le gouvernement sur quelle action allait mener le gouvernement pour faire pression sur les talibans pour qu'ils cessent cette chasse aux femmes, cette chasse à la contre les libertés des femmes. Ça me semble extrêmement important. Nous allons d'ailleurs tenir une réunion importante, un colloque à l'Assemblée nationale à mon initiative le 13 décembre. Où nous allons avoir des témoignages à la fois, bien sûr, de chercheurs, d'hommes et de femmes engagés pour les droits des femmes, mais aussi de femmes afghanes qui vont venir témoigner sur le combat qui se mène aujourd'hui en Afghanistan, parce que les femmes continuent à se battre malgré la répression qui s'abat sur elle.
Marie-Georges Buffet, députée communiste en Seine-Saint-Denis, ancienne ministre. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'apprête à dévoiler, ce sera à 12h30, le nouveau dispositif sanitaire pour tenter d'endiguer la cinquième vague de Covid-19. Un conseil de défense s'est tenu hier à l'Élysée. Plus de 32 000 nouveaux cas de Covid ont été recensés hier. Le taux d'incidence approche en France les 200 nouveaux cas pour 100 000 habitants sur la dernière semaine. Un chiffre près de 4 fois supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 par le gouvernement. Vous êtes bien sur Radio Orient. À 12h30, votre journal en langue arabe, présenté par Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour le journal. Et si on en parlait à 19h et 23h, le thème de cette émission, l'exclusion numérique à l'électronisme, qui sont les naufragés de la société digitale. Les invités d'Alexis Bachelet seront Isabelle Sénécal de l'association Les Petits Frères des Pauvres et Anne Brunner, directrice d'études à l'Observatoire des Inégalités. Vous êtes bien sur Radio Orient, il est 12h15, très bon début d'après-midi.